devant toi, Seigneur. Je répands mon âme devant toi, Seigneur. Je répands mon âme, ô mon Dieu. Je suis à toi, je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
Chers amis auditeurs et auditrices, je vous salue tous au nom du Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix soient avec vous tous. Voici votre émission En sa présence, proposée par le Centre biblique. La voix est celle de votre serviteur, Danny Wechai.
La Bible déclare, mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Le connaissez-vous? Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdure, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impartiale. Le connaissez-vous? Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en philosophie. La doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le débiteur. Il délivre le captif. Le défenseur du faible. Il bénit la jeunesse. Il met au service du malheureux. Il considère l'âgé. Il récompense l'assidu. Il embellit l'humble. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance. Il est la source de la sagesse. L'embrasure de la délivrance. Le sentier de la paix. Le chemin de la droiture. Il est la grande route menant à la sainteté. La porte menant à la gloire. Le connaissez-vous? Sa vie n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas. Rassasiant est sa parole. Suffisant est sa grâce. Son règne est vertueux. Son joug est léger. Son fardeau est léger. J'aimerais vous le décrire. Il est indescriptible. Il est humainement incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains. Vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui. Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi.
Amen. C'est mon roi, c'est mon roi. Eh bien, nous méditons depuis quelque temps sur le texte de l'Ecclésiaste au chapitre 9, au verset 13 jusqu'à 16. Je lis. J'ai vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui délivra la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. De ce texte, nous avons tiré la pensée suivante. Souviens-toi de ton Sauveur. Si la ville assiégée nous parle de l'homme, le puissant roi est une représentation du diable avec ses démons et leurs mauvaises œuvres, cherchant à détruire l'homme. Tandis que l'homme pauvre et sage qui délivra la ville, c'est l'image de Jésus-Christ, le puissant libérateur, ce puissant rédempteur que le monde a malheureusement oublié. Cher ami auditeur, n'oublie pas Jésus-Christ. Voilà ce que nous voudrions développer comme pensée. N'oublie pas Jésus-Christ. Trop de gens sont sauvés du péché de la mort, du péché, mais ils oublient le Seigneur Jésus-Christ dans diverses circonstances de leur vie. La Bible donne quelques exemples où les hommes ont vite fait d'oublier celui qui leur a fait du bien. Par exemple, dans Genèse au chapitre 40, nous trouvons l'histoire de Joseph et du grand échanson dans la prison. Au verset 12, Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les trois sarments sont 3 jours. » Et au verset 13, « Encore 3 jours et le Pharaon relèvera ta tête. Tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude, lorsque tu étais échanson. » Verset 14, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Au verset 21, « Le Pharaon rétablit le grand échanson dans sa fonction et celui-ci mit la coupe dans la main du Pharaon. » Mais, écoutez ce qui est dit au verset 23, le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Il l'oublia. Et vous savez, Joseph est le type le plus parfait de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi le grand échanson l'a-t-il oublié alors que Joseph a contribué à sa libération de la prison? Eh bien, c'est à cause de la prospérité. La prospérité, chers amis, est une des causes de l'oubli du Seigneur Jésus. Je me souviens d'un pasteur que j'ai rencontré en Hollande, aux Pays-Bas, qui me disait, « Mais, mon cher frère, j'ai décidé de ne plus jamais prier pour la prospérité de frères et sœurs dans l'Église. » Ah ben, cette déclaration m'a étonné. Je lui posais la question, « Pourquoi ?» Il m'a dit, mais chaque fois que nous avons prié pour quelqu'un, pour que, oui, il connaisse une certaine prospérité sociale, eh bien, cela a suffi pour que cette personne rétrograde. Eh bien, ceci m'a montré que dans l'histoire de la vie des enfants de Dieu, la prospérité est un piège. Ce n'est pas que la prospérité en soi soit quelque chose de mauvais, mais c'est un piège. Peu de gens ont réussi à bien gérer leurs conditions de prospérité. Et c'est comme ça que nous pensons que la prospérité, tout en étant une bénédiction, est en même temps aussi une épreuve. Et beaucoup passent très mal cette épreuve de la prospérité. Et ainsi, ils oublient Jésus-Christ. Deuxième exemple que nous trouvons, c'est dans Luc au chapitre 17. Au verset 11 jusqu'au verset 18. Le Seigneur Jésus-Christ a guéri 10 lépreux, mais voici le constat qu'il fait dans la suite. Au verset 17, Jésus prit la parole et dit, « Les 10 lépreux n'ont-ils pas été glorifiés, mais les 9 autres, où sont-ils ?» Verset 18, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Il semble que l'étranger dont parle le Seigneur Jésus ici était un Samaritain parmi 9 Juifs. Et ainsi, on peut tirer comme enseignement de cette histoire que beaucoup de chrétiens, on pourrait dire 1/10 de chrétiens, ont compris la valeur de l'hommage, de l'adoration qu'il faut apporter au Seigneur Jésus-Christ en tant que leur sauveur. Le 9 lépreux ne sont jamais retournés pour donner gloire au Seigneur. Mais pour quelle raison? Eh bien, la raison c'est que, on pourrait dire, c'était juif. Et puisque Jésus-Christ était juif, eh bien, c'était quelqu'un qui leur était familier. Comme le Seigneur l'a dit lui-même, nul n'est prophète chez soi. Le prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Ainsi, la familiarité avec Jésus-Christ, je ne vais pas dire la communion, mais une certaine familiarité, cela veut dire quoi? La tradition. C'est un piège. La tradition, c'est aussi une cause de l'oubli de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous paraît tellement ordinaire, tellement familier, habituel, que nous ne savons plus apprécier ses valeurs, apprécier tout ce qu'il est dans sa position de rédempteur, dans sa position de cet homme qui a pleinement accompli l'œuvre de la rédemption, mais que Dieu a élevé dans la gloire. Nous ne savons plus considérer Jésus-Christ à ce point. Et cet étranger, ce Samaritain, il est dit, c'était un étranger.
S'adressant aux Éphésiens, dans son épître au 2e chapitre, verset 12, l'apôtre Paul leur disait ceci. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions des gens bannis des promesses de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à creuser dans cette grâce que Dieu nous a donnée. Nous devons nous y plonger, nous devons exploiter ces richesses profondes de la grâce de Dieu, car c'est des choses que nous n'avons pas de par la nature.
Je crois que nous avons tous besoin dans nos vies, chers frères et sœurs, oui, de faire des expériences de quelque chose de nouveau avec le Seigneur Jésus, de découvrir une facette nouvelle de sa personne, et ainsi nous saurons adorer Jésus-Christ. La parole de Dieu nous parle du cantique nouveau. Quand vous lisez le livre de Psaumes, vous trouvez que les psalmistes parlent de ce cantique nouveau. Eh bien, est-ce que nous savons découvrir quelque chose de nouvellement merveilleux en Jésus-Christ pour que cela nous transporte dans une profonde adoration? Chers amis auditeurs, Jésus-Christ est cet homme pauvre que nous avons vu dans la parabole de l'Ecclésiaste. Et on pourrait dire que c'est aussi une des raisons pour lesquelles des personnes nombreuses parmi les chrétiens oublient Jésus-Christ. Parce que, bon, il y en a qui passent par, oui, des situations d'épreuves, des pauvretés. Et cette pauvreté est telle que finalement, ils se disent, mais si Jésus-Christ sauve, pourquoi est-ce qu'il me laisse dans telle situation? Pourquoi est-ce qu'il me laisse dans telle autre situation? Pourquoi est-ce que je suis dans une telle misère? Pourquoi suis-je dans une telle condition? Et finalement, le Seigneur perd son attrait dans leur cœur et dans leur esprit. Mais je voudrais tout simplement vous amener à considérer ce que l'Écriture nous dit. Face à ce puissant roi, le diable, qui nous trompe et qui cherche à nous détruire, la Bible nous présente le Seigneur Jésus. Quoique pauvre, il est en même temps ce lion. Vous savez, le lion dans la forêt, on dit que c'est le roi de la forêt. Je voudrais lire avec vous ce passage qu'on trouve dans Proverbes au chapitre 30, au verset 30. Le lion, le héros des animaux, qui ne recule devant personne. Au verset 31, il dit, le roi de l'armée est avec lui. Eh bien, le Seigneur Jésus n'est pas que cet homme pauvre. Il est en même temps, comme dit l'Écriture, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda qui a vaincu le diable. Cet autre lion que l'Écriture présente comme le lion rugissant, qui cherche qui rôde cherche qui dévorer. Mais l'apôtre Jean, dans sa vision du ciel ouvert, a pu voir Jésus-Christ comme ce lion de la tribu de Judas qui a vaincu. Le lion, le roi. Et je voudrais lire encore ce passage que nous trouvons dans Apocalypse, au chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau ? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Quand Jean a vu le ciel ouvert face à ce livre qui était scellé de 7 sceaux, il n'y avait personne pour pouvoir s'approcher de celui qui est assis sur le trône et de prendre le livre de ses mains et d'en rompre le sceau, eh bien, Jean a pleuré. Mais, merveilleuse révélation, il lui a été dit de ne pas pleurer parce qu'il y avait là quelqu'un. Celui qui est appelé le lion de la tribu de Juda. Amen. Vous savez que le nom Juda veut dire louange. Louange. Eh bien, le Seigneur Jésus est cette personne qui est digne de louange. Digne de notre adoration. Parce que oui, il a tout fait pour que nous puissions être constitués sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ainsi, il a formé pour Dieu un peuple. Un peuple d'adorateurs, ceux qui reconnaissent en lui ce puissant sauveur et qui peuvent, en conséquence, lui apporter l'adoration dont il est digne. Dans ce même livre d'Apocalypse, nous voyons au verset 12 du chapitre 5 que les rachetés chantaient ce cantique. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. » Alors qu'est-ce qu'il reçoit ? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. En fait, nous avons là cette chose merveilleuse qui doivent être rendues au Seigneur Jésus en tant que lion de la tribu de Juda. Mais ici, ce lion, c'est l'agneau immolé. Il a été immolé et il a racheté pour Dieu son Père par son sang. Des gens de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire un royaume d'adorateurs. Ceux qui ne sont là que pour apporter au Seigneur des sacrifices qui lui sont agréables. Et parmi ces sacrifices, eh bien, il y a ici cette chose dont le monde a absolument privé le Seigneur Jésus. Eh bien, les rachetés les lui rendent. Et c'est cette chose, c'est ce que nous voyons ici, c'est ce que nous voyons dans ce verset 12. La puissance. Le monde n'a pas reconnu en Jésus-Christ la puissance, mais c'est à lui la puissance. Aucun homme dans ce monde n'est aussi puissant que Jésus-Christ. Il est Dieu tout puissant. Toutes choses lui sont soumises. Les Juifs cherchaient des miracles. Quel miracle nous montres-tu ? Et quand le Seigneur est mort à la croix, pour eux, c'était une grande faiblesse. Mais Paul dit, nous prêchons Christ, puissance de Dieu. La puissance est à lui. La richesse. Oui, pour le monde, ce n'est qu'un pauvre. Et nous avons vu dans cette parabole de l'Ecclésiaste au chapitre 9, que c'est un homme pauvre, pauvre, pauvre aux yeux des hommes. Alors, les gens de ce monde croient que la richesse est à eux, la richesse est au roi, la richesse c'est aux riches de ce monde. Non, la richesse est à Jésus-Christ. Amen. À Jésus-Christ, nous sommes de ceux qui rendent à Jésus-Christ la richesse, puis la sagesse. La sagesse. Ah, pour les Grecs, Jésus-Christ est mort à la croix. Mais quelle folie! Il a prétendu sauver les hommes et il meurt à la croix. Quelle folie! Quelle folie! Non, la folie de Dieu est plus sage que le monde. Alléluia! Jésus-Christ est le seul sage. À lui la sagesse! Chers frères et sœurs, la véritable sagesse est à Jésus-Christ. Les hommes ont bâti des universités, des grandes écoles. C'est pas que je sois contre la formation, l'éducation, l'instruction scolaire ou académique. C'est de très bonnes choses, nous en avons besoin. Mais, malheureusement, les hommes, à cause de cette haute instruction, méprisent Jésus-Christ, méprisent la Bible. Et ils croient pouvoir connaître tout grâce à la raison, grâce à la science. Non, la sagesse véritable est à Jésus-Christ. Dans l'épître de Jacques, il nous est parlé de cette sagesse qui vient d'en haut. Chapitre 3, verset 17. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, modérée, conciliant. Cette sagesse est miséricordieuse, pleine de bons fruits, sans hypocrisie. Cette sagesse, le Seigneur, dans toute sa vie, l'a manifestée. La sagesse, c'est quoi? On dit que la sagesse, c'est le caractère d'un homme qui fait ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut et où il faut. Et le Seigneur Jésus-Christ a vécu dans ce monde d'une manière réglée. Il ne parlait pas quand il devait se taire. Il n'allait pas là où il ne devait pas se trouver. Il ne se taisait pas lorsqu'il devait parler. Voilà l'homme sage. À lui la sagesse. Puis, qu'est-ce que nous voyons encore? Nous voyons que c'est à lui la force. La force à Jésus-Christ. Comme le lion, doté d'une force extraordinaire. Par cette force, il broie ses ennemis. Il ne recule devant aucun danger. Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est celui qui est fort. Et c'est ainsi qu'il nous est parlé dans les petits prophètes. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort, parce que c'est à Jésus-Christ la force. C'est David qui disait dans le psaume, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Eh bien, la force est à Jésus-Christ. L'honneur, c'est à lui l'honneur. Dans ce monde, on parle des honorables. Les députés, on dit honorable député. Oui, mais le véritable homme honorable, c'est le Seigneur Jésus. Il y en a qui le méprisent dans nos écoles, dans nos lieux de travail. Dans ce monde, Jésus-Christ est méprisé. Mais pour nous, croyants, chrétiens, rachetés, l'honneur est à lui. Dans quelle mesure rendons-nous honneur et gloire à Jésus-Christ? La gloire est à lui. La louange est à lui. Amen. Chers amis, je voudrais vous inviter à vous souvenir de Jésus-Christ, à ne pas oublier cette admirable personne, mais à lui apporter nos cœurs, nos pensées, à nous souvenir de lui et à pouvoir lui apporter l'adoration. Fuyons des idoles, fuyons des vanités de ce monde. Appliquons nos cœurs à la véritable adoration, c'est celle vouée à Jésus-Christ. Emmanuel, nous allons nous courber pour l'adorer. Seigneur Jésus, nous voulons t'apporter l'adoration, car toute ta personne est désirable. Nous nous joignons, Seigneur, aux anges et à la légion des rachetés glorifiés dans les cieux, mais marchant aussi dans le combat sur cette terre. Nous nous joignons à eux pour dire... À l'agneau qui a été immolé, la puissance, la sagesse, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Avez-vous besoin de contact? Eh bien, vous pouvez appeler votre serviteur, Danny Wichai.
Siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant,
car il parlait
comme ami des pauvres pécheurs de Galilée et qui le suivit jusqu'au pied de la croix.
Quel immense amour!
Tu parles aujourd'hui de toi,
de ce cri. Voilà, maintenant je sais, je crois.
Oui, je...